Bon, la première chose qui s'est passée, c'est de relation de collègues. On passe d'une relation où vous êtes le manager, donc quelque part, vous êtes le patron dans l'entreprise. La seule chose, c'est que régulièrement, j'étais invité pour des dîners ou des trucs comme ça chez des collègues, et du jour au lendemain, j'étais plus invité. On se rend rapidement compte que finalement, on ne va pas recueillir l'adhésion de tout le monde. Alors ceux qui discutent, ceux qui parlent, on s'en rend compte rapidement. Mais c'est beaucoup plus compliqué pour les gens qui parlent moins.
Bonjour Serge, est-ce que je peux te demander de te présenter ?
Alors, je m'appelle Serge Perrier, je suis responsable de l'entreprise Axience à Caen. Axience sur Caen, c'est une soixantaine de personnes avec une activité qui est focalisée sur les infrastructures. Donc, infrastructure de réseau, infrastructure de serveur, stockage de données, sauvegarde de données, aussi solutions de collaboration. Et nous sommes également opérateurs sur le territoire métropolitain.
Très bien. Alors justement, tu as prononcé le mot collaboration. Mmh. Ça m'intéresse. Parce que comme tu le sais, on va parler management. Mmh. Toi, tu es devenu manager. De toute façon, on n'est pas manager. Alors comment ça s'est passé aujourd'hui? Tu as combien de personnes à gérer à peu près?
Alors aujourd'hui, j'ai une bonne soixantaine de personnes à gérer en local là, sur l'entreprise, donc sur le site basé à Caen. Quelquefois d'autres collaborateurs sur des projets transverses, sur d'autres entreprises, sur la France. Donc ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Si on refait un peu l'histoire, moi je suis arrivé sur Caen dans les années 96 en tant que responsable d'affaires. Donc le responsable d'affaires, c'est une personne qui réalise des prestations d'audit de besoins clients, qui réalise des offres commerciales, défend ses offres, et une fois que le client lui fait confiance, c'est lui qui est également le pilote projet et reste l'interlocuteur unique du client du début jusqu'à la fin d'un projet. Donc, de la feuille blanche, j'ai prospecté. Mes premières interrogations à l'époque, c'était vis-à-vis de mes collègues, mais comment vous faites pour trouver les clients?
En fait, oui, c'est un bon début.
C'est un bon début. Donc, dans mes débuts, j'ai pris les guides économiques de la région, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé, je me suis pris des vents. Et puis, de fil en aiguille, c'est par relation essentiellement que je réussissais à prendre contact avec des prospects et puis à donner confiance et à établir quelques projets. Et généralement, on démarre par des petits projets et on arrive sur des gros par la suite.
D'accord. Et de là, donc, tu es devenu manager. Ça s'est passé comment?
C'est à l'ancienneté? C'est un peu à l'ancienneté. Alors, certainement que peut-être que mes managers ont repéré peut-être des qualités de manager chez moi. Et finalement, au bout de 8 ans sur cette activité de responsable d'affaires, m'ont proposé de prendre la tête de l'entreprise. Donc à ça, ça nous amène dans les années 2004, où l'entreprise était à peu près composée d'une bonne vingtaine de personnes. Je pense de mémoire, on était à peu près à 24 personnes sur l'entreprise, sur une activité qui était essentiellement liée à l'infrastructure de réseau. Donc c'était le réseau local. On commençait à faire, alors il y avait du Wi-Fi, et on commençait à regarder un peu les briques système à l'époque, parce qu'on en avait besoin vis-à-vis de tout ce qui était système d'authentification et d'encryption des utilisateurs par le Wi-Fi. Mais aussi vis-à-vis des solutions de collaboration, parce que commençait à arriver tout ce qui était, on appelait ça à l'époque, la messagerie unifiée. Mmh. Voilà. Et donc, j'ai démarré la partie management à cette époque-là, en 2004. Et nous sommes maintenant en 2018, ce qui fait maintenant 14 ans.
14 ans. Mais est-ce que c'était une volonté de ta part? Est-ce que c'est quelque chose auquel tu avais pensé avant? Ou ça s'est imposé peut-être un petit peu naturellement?
Ça s'est presque fait naturellement. Moi, c'est quelque chose... Le métier de responsable d'affaires est toujours très plaisant, parce que c'est un métier qui est varié. Mais la dimension management m'intéressait, parce que... elle mettait beaucoup plus l'humain au centre du dispositif. Et donc, c'est ça qui m'intéressait beaucoup plus. C'était, les échanges dans l'entreprise, c'était la stratégie de l'entreprise et mettre en application cette stratégie et regarder qu'est-ce qu'on allait développer dans le futur, comment on allait prendre des parts de marché, comment on allait se positionner, qu'est-ce qu'on allait développer, quels moyens humains on mettrait en face et comment on engagerait en interne la communication pour que ces moyens se mettent en œuvre. Mais aussi comment on allait mener la conduite du changement par rapport à tout ça.
Et donc, qu'est-ce qui a changé pour toi quand tu es passé de ce rôle de responsable d'affaires à manager?
C'est plus le même métier. Quand je suis passé de ce rôle de responsable d'affaires à manager, bon, la première chose qui s'est passée, c'est qu'effectivement, de relation de collègues de travail, on passe d'une relation où vous êtes le manager, donc quelque part, vous êtes le patron dans l'entreprise.
Ça s'est bien passé ?
Ça s'est pas trop mal passé. La seule chose, c'est que régulièrement, j'étais invité pour des dîners ou des trucs comme ça chez des collègues. Et du jour au lendemain, j'étais plus invité.
Parce que donc, tu étais le chef.
Parce que j'étais le chef. Donc, on ne parle pas devant le chef de tout ce qu'on fait en dehors, etc. Ce qui, finalement, est quelque part complètement dénué de tout sens. Parce que le chef, ça reste quelqu'un lui aussi. Donc, on peut lui dire beaucoup de choses. Et il y a peu de gens, finalement, qui pensent qu'on peut tout dire à son chef. Alors qu'à partir du moment où on dit énormément de choses, ça reste confidentiel, mais tout est possible. Alors, ça, c'est la première chose qui a changé. La deuxième qui a changé, c'est qu'on se retrouve sur les manettes de l'entreprise, et là, quand il y a des décisions à prendre, on se rend très rapidement compte que finalement, on est seul. Tout le monde peut avoir de très bonnes idées et se dire, quand on n'a pas les manettes, oui, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça. Mais quand on les a, c'est pas aussi simple, parce qu'il faut peser le pour, le contre. Et à un moment donné, il faut décider. Et la décision, on la prend, en règle générale, tout seul.
Avec peut-être des informations à droite, à gauche,
bien sûr,
mais est-ce que le cut final...
Il faut avoir ces informations. C'est-à-dire que le cheminement vers la décision ne se fait pas seul. Ça veut dire qu'on va consulter, on va écouter. Mais à un moment donné, on est seul. Alors, je parle d'écoute. Mmh. Ça, c'est une qualité qu'il faut avoir pour être manager. Et c'est une qualité que j'ai développée une fois que je suis devenu manager, parce que je n'avais pas forcément cette capacité d'écoute au préalable.
Donc c'est venu avec le temps,
c'est venu
tu t'es rendu compte que c'était nécessaire.
Et je m'en suis rendu compte assez rapidement que c'était nécessaire. C'est-à-dire que bien souvent, on a l'impression que, oui, la décision c'est ça, cette direction c'est ça, on prend la décision d'eux, on avance. Et on se rend rapidement compte que finalement, on ne va pas recueillir l'adhésion de tout le monde. Alors ceux qui discutent, ceux qui parlent, on s'en rend compte rapidement. Mais c'est beaucoup plus compliqué pour les gens qui parlent moins. Et là, si on se rend compte, si on ne requiert pas l'adhésion des gens, on ne va pas avoir en retour un travail de fond qui soit accompli le mieux du monde, finalement. C'est-à-dire qu'on n'aura pas la motivation à 100% de la personne si on ne requiert pas son adhésion. Et à un moment donné, vous savez tous que si vous demandez à quelqu'un de faire quelque chose et qu'il n'a pas envie de le faire, ben, in fine, il ne le fera pas. Ou alors il le fera, mais il ne vous le fera pas correctement. Et vous serez obligé d'y revenir. Donc l'important, c'est un, on se rend rapidement compte qu'il faut bien présenter sa stratégie, c'est-à-dire présenter le pourquoi on veut faire ça, vers quoi on veut aller. Recueillir l'adhésion de tout le monde, donc écouter, faire parler les gens, et savoir ce qu'ils pensent finalement de cette stratégie, savoir s'ils y adhèrent ou ils n'y adhèrent pas. Et s'il y a des objections, pouvoir recueillir les objections et les traiter. Et c'est en réexpliquant le pourquoi, à chaque fois, qu'on réussit à mettre en place la stratégie et à recueillir l'adhésion de tout le monde. Ça, c'est hyper important, parce qu'une fois que vous avez l'adhésion, là, vous avez la motivation des gens, et vous pouvez progresser.
Donc tu dirais que ce qui a évolué dans ton management, c'est justement cette capacité d'écoute, aller expliquer, aller chercher les signaux chez les gens. Comment tu fais pour justement faire parler cette masse silencieuse, qui souvent sont les plus nombreux, qui ont plus de mal à s'exprimer ?
Alors, effectivement, c'est le plus important. Le plus important, c'est de pouvoir expliquer clairement la stratégie, pourquoi. Mais avant de l'expliquer clairement, il faut, un noyau dur de personnes, avoir échangé sur cette stratégie. Et on le fait à l'occasion de réunions, ou pendant ces réunions, on va se poser la question, on va faire un peu de brainstorming et se poser la question, on en est où? Quelles sont nos parts de marché? Quels sont nos clients? Comment on est positionné? Qu'est-ce qu'on voit venir en termes de nouvelles technologies, en termes de nouveaux usages? Quelles sont les demandes de nos clients? Quelles sont les demandes de nos prospects aussi? Parce qu'il y a une différence entre les demandes des prospects et des clients. Les clients, eux, nous connaissent, les prospects ne nous connaissent pas. Vont exprimer des choses différentes. Et en fonction de tout ça, on finit par définir des grandes lignes stratégiques qu'on affine. Et puis une fois qu'elles sont affinées, il faut les présenter le pourquoi. Et ensuite, il faut être capable, et c'est là que c'est beaucoup plus délicat, de mesurer à tous les échelons, à tous les niveaux de l'entreprise, quel est le niveau d'adhésion des gens et le niveau de compréhension des gens de cette stratégie.
Et est-ce que tu dirais que le noyau dur dont tu parlais, à qui tu expliques, à qui tu réfléchis à la stratégie, est-ce qu'il te sert d'ambassadeur à la suite, justement, pour expliquer aux gens ?
Ce noyau dur sert forcément d'ambassadeur. À un moment donné, ce sont vos alliés dans cette stratégie, c'est votre garde rapprochée. Donc c'est elle qui va vous permettre au quotidien de véhiculer sa stratégie et de rappeler vers où on va et d'expliquer vers où on va. Mais qui va être capable également de mettre en œuvre le comment on va avancer sur sa stratégie.
D'accord.
Bah, écoute, parce que là, vous ne pouvez pas le faire tout seul.
Non, c'est difficile d'avancer.
C'est très compliqué de le faire tout seul. Et tout seul, on n'arrive pas à grand-chose. Je dirais que le plus compliqué, et par définition même, c'est toujours comme ça. C'est-à-dire que le bateau, il prend toujours l'eau par où on ne s'y attend pas. Et donc, ce qu'il faut, à un moment donné, c'est pouvoir disposer d'indicateurs qui vous permettent de voir ce que vous ne voyez pas. Et s'il fallait changer quelque chose, ce serait d'avoir un niveau d'information et un niveau de complicité beaucoup plus fin avec l'ensemble des collaborateurs. Et d'être capable d'aller beaucoup plus loin dans la mesure de l'adhésion par rapport à une stratégie. À la fois sur la communication descendante vers le collaborateur, mais également sur la communication montante. Et ça, c'est de plus en plus compliqué, plus l'entreprise est importante, parce que dans une petite structure, on discute plus facilement. Dans une structure plus importante, ben, on n'a pas forcément la disponibilité pour voir tout le monde régulièrement et échanger de façon approfondie avec tout le monde régulièrement. Donc c'est effectivement là où le travail de fond est à faire, où il y aurait des choses à changer, c'est sur la mesure fine de cette adhésion pour maintenir un niveau de communication optimum, que ce soit sur une petite structure, sur une structure moyenne ou sur une grande structure. Jusqu'à 30, une personne arrive à gérer. Au-delà, ça devient compliqué. Parce que au-delà, un, il y a les aspects stratégie, il y a les aspects commerce, il y a les aspects administratifs, il y a les aspects budget, etc., financiers, en plus des aspects techniques, parce qu'à un moment donné, on maîtrise aussi les aspects techniques. Et au-delà, jusqu'à 30, on y arrive. Ça commence à être compliqué parce que ça fait beaucoup de monde, donc être en contact en permanence avec tout le monde, ça demande beaucoup d'investissement en termes de temps. Et après, il faut commencer à positionner des relais. Alors souvent, c'est des relais techniques qu'on positionne, ça va être un responsable technique, ça dépend des activités, hein, mais il peut y avoir un ou plusieurs responsables. Et on commence à avoir des relais, et c'est là où il faut vraiment avoir une garde rapprochée des personnes de confiance.
Et toi, du coup, pour pallier à ça, tu as tout de suite mis en place des relais qui te remontent les informations. Au début, tu essayais d'avoir une vision globale et peut-être de faire tout par toi-même.
Moi, ça s'est passé. Les relais, non, je ne les ai pas mis en place tout de suite. Au départ, j'ai même continué, moi, à mener à la fois le métier de responsable d'affaires en parallèle du pilotage de l'activité de l'entreprise.
Et pourquoi c'était une peur de déléguer ou...
Non, ce n'est pas ça. C'est que je n'avais pas forcément non plus à cette époque-là la capacité de déléguer. Et puis, y avait des comptes, il y avait un certain nombre de dossiers en cours, des comptes que je continuais à traiter. Parce que, d'une part, ça me plaisait, c'était intéressant. Ça permet de garder un pied sur le terrain et un pied dans le business. Parce que, de toute façon, si on ne garde pas un pied dans le business, on est mort. Et j'arrivais à mener les deux fronts. Et ça amenait également une cohésion avec les autres responsables d'affaires. C'est-à-dire que ça montre un peu le chemin aussi également vis-à-vis des autres responsables d'affaires. Et ça crée un noyau dur autour de moi par rapport à ça. Et donc au départ, ça a fonctionné comme ça. Jusque dans les années, allez, on va dire 2010, où là, oui, j'ai recruté un responsable technique pour avoir un relais qui tienne beaucoup plus les aspects techniques et pouvoir mettre en place un certain nombre de process qualité. Parce qu'une fois qu'on dépasse les 30, on commence à avoir besoin de mettre en place certains points de contrôle, enfin points de passage obligés, pour avoir de la rigueur, que ce soit avoir des dossiers techniques en fin de projet qui soient correctement complétés, archivés, qu'il y ait des opérations de maintenance derrière ou pas, de toute façon, dans tous les cas. Parce que qu'il n'y ait pas de maintenance, un client, 3 ans après, il peut vous redemander des évolutions par rapport à ce qu'il avait mis en place 3 ans auparavant. Donc, si vous commencez à lui demander ce qu'il a en place, c'est vous qui l'avez mis en place, déjà, ça ne fait pas beau dans le décor. Donc, il faut avoir toutes les informations, qu'elles soient archivées, il faut les retrouver, c'est de la qualité, c'est du gain de temps pour tout le monde. Idem, de surcroît, quand vous avez de la maintenance, il faut le faire.
Oui, puis au niveau de l'expérience client,
c'est oui, plus c'est quand même un peu plus suivi sympa vis-à-vis du client. Il se rend compte qu'il est suivi. Voilà, on sait ce qu'il a, on s'intéresse à ce qu'il a, on l'archive. Voilà, c'est de la rigueur, c'est du sérieux. Idem vis-à-vis de tout ce qui est fiche de test, fiche de recette, en fin de projet. À un moment donné, c'est de la qualité aussi. Faire un projet, on passe par les étapes de maquettage, c'est bien de recéter sa maquette par rapport à ce qu'on attend. Parce que quand on installe ça le projet en clientèle, si dans la maquette, il y a des choses qui fonctionnent et les mêmes choses dans l'environnement ne fonctionnent pas, dans l'environnement client, bah, à un moment donné, on se pose la question, oui, c'est lié à l'environnement client, et on ne remet pas tout en cause, donc on gagne du temps. Et on trouve plus rapidement où se trouvent les dysfonctionnements.
Donc tu avais besoin de se rouler technique pour discuter.
J'avais besoin de pouvoir me dégager d'un certain nombre d'aspects techniques quotidiens pour consacrer plus de temps sur le commerce, l'appui vers les responsables d'affaires sur le côté commercial, mais aussi sur la stratégie, sur le recrutement, sur les aspects budgétaires, quelques aspects administratifs, quelquefois aussi.
Ça a été facile de le trouver, cette personne-là ?
Non, c'est pas simple du tout.
Ça a été en interne, la promotion interne ou de l'extérieur ?
Non, c'était un recrutement extérieur.
Et c'était une volonté ?
C'était un recrutement extérieur. Non, on n'avait pas en interne la personne qui pouvait prendre cette position.
Et ça a été bien vécu d'avoir quelqu'un d'extérieur qui arrive.
Oui, par les équipes, ça a été bien vécu. Oui, c'était quelqu'un qui allait être beaucoup plus proche qu'eux. Ils l'ont ressenti comme quelqu'un qui allait ramener de la proximité dans leur quotidien vis-à-vis des opérations. Donc non, ça a été très bien.
Et de se sentir peut-être plus encadré, d'avoir quelqu'un plus régulièrement, parce que quand on commence à grossir, c'est compliqué d'être
au feu et au moulin à un moment donné.
Et toi, est-ce que tu as bien vécu, pour parler un peu plus de ta situation personnelle, de déléguer quelque chose et peut-être d'être moins en prise directe avec certains collaborateurs ?
La grande difficulté, une fois qu'on met une personne sur un poste qui va avoir un relais par rapport à un spectre défini, c'est de ne pas le court-circuiter. Et de ne pas revenir à ses habitudes, qui sont d'aller voir directement le technicien ou l'ingénieur sur ce qu'il a fait, de s'en enquérir, mais dans ce cas-là, de passer par son responsable technique.
Et ça s'est fait facilement ?
Oui, ça se fait plus ou moins facilement.
C'est difficile de perdre certains réflexes.
C'est difficile de perdre certains réflexes. Mais c'est quelque chose qui s'apprend au quotidien. C'est de la rigueur à avoir. Mais c'est extrêmement important, parce que si vous court-circuitez, ça veut dire pour lui intrinsèquement que vous ne lui faites pas confiance. Donc lui, il le vivra mal, et vous le mettez en porte-à-faux vis-à-vis de ses équipes. Parce que du coup, ses équipes vont revenir directement vers vous pour vous faire du reporting, et vont le strapper. Dans ce cas-là, il a le sentiment de servir à rien du tout.
Oui, et du coup, il y a une couche
qui... Et du coup, il y a une couche qui ne fonctionne pas.
Pose un problème. Et après, tu as réussi à... Alors j'imagine que tes journées étaient bien remplies, elles sont toujours, mais... petit à petit lâcher ces sessions-là, est-ce que tu as après décidé de lâcher d'autres corps de métier pour avoir d'autres relais que juste un relais technique ?
Alors, ce relais technique, il s'est splitté en deux avec la croissance. On a à la base un métier d'intégration, donc c'est les projets, et puis parallèlement à ce métier d'intégration, il y a un certain nombre de services qui sont des services de maintenance et du service managé. Donc, c'est de l'exploitation au quotidien d'infrastructures clients. Et on a d'un côté des équipes qui vont faire en lien du build et de l'autre qui vont faire du run. Et c'est très compliqué de demander à des gens qui sont dans l'intégration d'aller faire de l'exploitation. Et inversement, parce que ce ne sont pas les mêmes profils. L'exploitation nécessite beaucoup plus de rigueur que l'intégration. Parce que l'intégration, c'est un projet neuf ou une extension qui arrive avec une photo à l'entrée, une photo à la sortie. L'exploitation, c'est tous les jours. Et c'est tous les jours qu'on fait des modifications, qu'il faut les mettre à jour, qu'il faut les consigner, les renseigner. Et chaque jour,
on itère au fur et à mesure.
On itère en permanence.
Et est-ce que, justement, eux, entre eux, ont du mal à se comprendre quelquefois ?
Entre lesquels ?
Entre ceux qui itèrent et ceux qui sont plus sur du résultat
oui,
terminé.
Ils ont beaucoup de mal à... Enfin, ils n'ont pas beaucoup de mal à se comprendre... Mais ils ont des informations à se passer.
Et comment on fait alors ?
Comment on fait ? C'est qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait, cette partie intégration délivre un dossier technique fini, de l'intégration vers l'exploitation, que l'exploitation le prenne en compte, et elle, une fois qu'elle l'a pris en compte, le fait vivre dans le temps, au fur et à mesure des différentes itérations qui arrivent. Et le jour où il y a une évolution, on reprend le dossier, le dernier de l'exploitation, qui permet de consigner l'ensemble des informations d'entrée d'un projet. Et du coup, on génère le cycle. Mais la grande difficulté là-dedans, c'est que pour l'exploitation, au moment où vous démarrez l'exploitation, vous n'avez pas forcément un volume d'affaires conséquent, ce qui fait qu'au départ, vous faites appel aux équipes d'intégration pour faire de l'exploitation. Et au fur et à mesure où vous avez de l'activité, là, vous dédiez des gens à l'exploitation. Et comme ce sont des métiers différents, le démarrage est difficile. parce que vous avez des gens à qui vous allez demander énormément, énormément de rigueur au quotidien, qui vont prendre ça pour des tâches quelque part administratives, alors qu'elles font complètement partie de leur métier, surtout d'un métier d'exploitation. Alors souvent, je prends l'exemple, par exemple, pour expliquer aux gens pourquoi il est important de consigner les données, pourquoi il est important de mettre à jour des dossiers de site, c'est typiquement quand ils mettent leur voiture au garage, il y a des opérations qui sont faites, quand ils vont payer la facture, ils aiment bien savoir ce qui a été fait. Et donc, pour savoir ce qui a été fait, ça veut dire que l'intervenant, dans le garage, il a à un moment donné consigné sur une fiche les différentes opérations qu'il a faites. Elles sont remontées vers l'administratif, qui s'en est servi pour établir la facturation et remettre ces données en face. Mais pour eux, c'est exactement pareil. Il faut consigner ce qu'ils ont fait pour que derrière, il y ait soit la facturation, soit les dossiers qui soient à jour.
Et, ça justement...
et que leurs collègues retrouvent les informations.
Et ça justement, parce qu'on parlait management et on parlait explication, le pourquoi, le comment, est-ce que ça fait partie de ces choses qu'il faut leur expliquer, qu'il faut leur donner la méthode, qu'il faut leur donner ce qu'on appelle la big picture, la grande image pour qu'ils comprennent que chaque rouage est important?
Il faut expliquer pourquoi d'abord. En fait, ce qui est important, c'est l'expérience client, c'est qu'est-ce qu'attend le client pour une société de service, mais pour toute société. De toute façon, on est tous clients les uns des autres. Donc à un moment donné, il faut se mettre dans la position du client et qu'est-ce que le client attend? L'objectif, c'est un, satisfaction du besoin client, au mieux. Donc, à partir du moment où on se met sur cette position, toutes ces étapes doivent se dérouler sans accroc. Simplement, il y a des gens qui vont préférer faire telle chose, telle autre chose. À un moment donné, on est contraint de mettre en place un certain nombre de points de contrôle qui vont permettre de disposer d'indicateurs et de mesurer où on est, nous, dans la chaîne, par rapport à l'expérience client et comment on est perçu. Et est-ce qu'on délivre le bon niveau de qualité par rapport à un niveau attendu. Ça veut dire qu'il faut mettre en place, des enquêtes de satisfaction client, à la fois sur des opérations de type projet, mais à la fois sur des opérations de type maintenance, qu'il faut mettre des points de mesure sur tout ce qui est soit incident ou demande de changement, qui sont des opérations d'exploitation au quotidien, qu'on mette des outils pour tracer l'information. Donc c'est du helpdesk, c'est des tickets, c'est le suivi de ces tickets, le bon enseignement de ces tickets, des rapports d'intervention, la clôture des tickets dans les délais, dans les temps, avec la consignation des données, et il faut pouvoir le mesurer. Et mesurer ça, est-ce qu'on le fait dans les délais qu'on a garantis par rapport à nos clients ou pas? Il faut derrière mesurer lesquels sortent de cette garantie, et puis après analyser pourquoi. Une fois qu'on a analysé pourquoi, c'est fermer la boucle et s'améliorer en permanence autour de ces dispositifs. Ça, on l'a sur l'exploitation, et ça, on l'a également sur les projets. Et sur les projets, les mesures, ça va être des opérations d'avant-vente jusqu'à la fin du projet, avoir un certain nombre de points de mesure. Donc les principaux points de mesure, ça va être, on démarre d'une commande, par exemple, on a notre phase d'approvisionnement, une phase de maquettage, et on va recéter notre maquette. Ensuite, on va avoir une phase de déploiement, et on va recéter le projet chez le client. Et ensuite, on va avoir un livrable qui va être un dossier de site. Et donc, on va vérifier qu'on a bien le dossier de site complet, cohérent.
Et une fois que tout est livré, là on parlait d'enquête client, de satisfaction et autres, est-ce que vous avez des remontées des collaborateurs? Est-ce qu'elles se font au fur et à mesure? Est-ce qu'il y a une espèce de post-mortem après le dossier pour savoir ce qui a fonctionné ou pas?
Alors, ça va être des revues de projet. Donc on a, sur le cycle de vie d'un projet, on va voir les différentes équipes qui vont travailler sur le projet, qui vont venir renseigner les étapes, à quel niveau ils en sont. C'est-à-dire, dès qu'il y a un livrable qui est fait, ils vont venir sur le dossier de façon très très simple, cliquer pour dire « Ok, ça c'est fait ». Ça, ça ne suffit pas. Mm-hmm. Parce que c'est fait, il faut à un moment donné vérifier la conformité. Donc ça veut dire qu'il y a un deuxième niveau, soit au niveau responsable technique ou au niveau responsable d'affaires, qui vont venir vérifier la conformité. Et donc, il peut y avoir un décalage dans le temps, entre le moment où un technicien a dit « C'est bon » et le moment où un manager a dit « Là, c'est conforme ». Parce qu'il peut très bien avoir noté une non-conformité à un moment donné. Et la conformité interviendra beaucoup plus tard. Ça peut être une semaine après, 15 jours après, 3 semaines après, voire un mois après. Et donc, derrière l'idée, c'est d'avoir des alertes par rapport à ça, et de pouvoir dire, sur tant de projets, on a tant qui ont été en dérive, et on en a quelques-uns où, effectivement, on a beaucoup de dérives. Et donc, on va faire des revues de projets là-dessus. Et on est exactement comme sur l'exploitation, sur les contrôles de non-conformité. On va avoir des contrôles de non-conformité et on va détecter des non-conformités sur des projets. Et donc, c'est d'aller chercher pourquoi il y a eu une non-conformité, où est-ce que ça a dérapé, qu'est-ce qui a amené à ce dérapage, et derrière, de venir corriger la boucle.
Et les collaborateurs sont conviés à donner leur
avis. Alors, les collaborateurs sont complètement conviés à donner leur avis. Et je pense qu'il faut même les impliquer là-dedans, au quotidien et complètement. Il faut qu'ils aient un visu de savoir où on en est. Mmh. Quelle est l'image qu'on véhicule. Parce que ça, c'est important. S'ils ne l'ont pas, ils sont complètement en aveugle.
Et comment on fait, alors justement, tu travailles dans un domaine quand même où l'innovation a sa part d'importance. Mmh. On sait que dans les entreprises, ce n'est pas toujours facile d'être à l'écoute de l'innovation, même si beaucoup en parlent. Comment vous faites, vous, pour détecter l'innovation, pour que des gens puissent peut-être avoir des projets disruptifs ou en tout cas proposer des améliorations?
Alors, on le fait à la fois en interne et on est à l'écoute de ce qui se fait ailleurs. Alors, en interne, c'est des réunions régulières à différents niveaux. C'est-à-dire qu'au niveau technique, le responsable technique va animer un certain nombre de réunions dans l'année, de façon régulière. Au moins une fois par mois, il aura une réunion technique sur laquelle il fera un recensement des différentes problématiques rencontrées, des besoins en formation. Mais ce sera à la fois des messages descendants et des messages montants. Et donc, de là, il y a des idées qui peuvent venir de ses collaborateurs, des collaborateurs de l'entreprise. Et si ces idées, à un moment donné, sont perçues comme bonnes, oui, elles seront mises en œuvre.
D'accord. Donc, en fait, on est remonté.
Ça, c'est en interne. On va faire se remonter à la fois au niveau des responsables d'affaires, au niveau des ingénieurs, au niveau des techniciens. Il faut que tous aient droit à la parole par rapport à ça. Et il faut les impliquer dans les process continus d'amélioration. Alors, il y en a qui s'impliqueront forcément plus que d'autres. Ça, c'est clair. Et la difficulté, c'est de faire en sorte que ceux qui s'impliquent moins s'impliquent plus.
Ou qu'ils y voient l'intérêt,
appartenir à quelque chose, valorisé au travers de ça.
Alors justement, Axience fait partie d'un grand groupe, Vinci. Mmh. Comment on vit cette espèce de dualité? C'est-à-dire, on est dans une entreprise, on est Axience, mais en même temps, on est le groupe Vinci. Est-ce que pour toi, par exemple, c'est quelque chose... Tu te présentes toujours comme Axience ou tu parles immédiatement de Vinci ou si tu te situes comment toi?
Non, on parle d'Axience, on se présente rarement Vinci. Vinci, c'est effectivement, si on va voir également une très grande structure, là, effectivement, ça va leur parler. Mais au quotidien, quand on va voir des PME, on se présente Axience.
Et ça t'arrive d'avoir des échanges avec d'autres dirigeants de Vinci, par exemple, pour mélanger les expériences et...
C'est très régulier. On a assez régulièrement des réunions où on partage des expériences. On a d'ailleurs une direction de marque à Science, et l'organisation de Vinci est ainsi faite. Il y a une direction de marque pour chaque marque. Et une de leurs prérogatives, c'est d'être à l'écoute des différentes expériences, de voir quelles sont les expériences qui fonctionnent, ou quelles sont les innovations qui fonctionnent, et de pouvoir les porter, les diffuser vers les autres entreprises.
Et toi, ça t'est utile dans ton rôle quotidien, même vis-à-vis de tes collaborateurs? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont été inspirées, le fait de prendre des relais ou des choses comme ça, de discussions que tu as pu avoir avec d'autres managers?
Oui, bien sûr. Oui, c'est instructif. Ça permet de voir la structure d'une autre entreprise, comment ils sont organisés, comment ils fonctionnent, en fonction de leur taille, en fonction de leur typologie de marché, qu'est-ce qu'ils ont mis en place, comment ils sont adaptés. Et donc, ça permet d'éviter de faire des erreurs.
Qu'on fait quand même.
Oui, on en fait. Non mais, quand je dis erreur, c'est pas péjoratif. Hein, je veux dire, on apprend énormément au travers de l'échec. Hein. C'est pas forcément dans la culture française, mais on apprend énormément. Simplement, après un échec, il faut savoir rebondir.
Alors,
et prendre les mesures correctrices.
Justement, l'échec, il est géré comment chez vous? Est-ce qu'il y a une gestion de l'échec? Est-ce qu'il y a une gestion du projet qui s'est pas bien passé?
Il y a une gestion de l'échec. L'échec, il y a que ceux qui font rien, qui font pas de conneries.
Ça, c'est très vrai.
Donc, s'il y a un échec, à un moment donné, c'est qu'il y a des facteurs qui ont conduit à cet échec. Donc, ce qu'il faut, c'est aller analyser, c'est au travers des revues de projet dont on parlait tout à l'heure, mais c'est analyser qu'est-ce qui a conduit dans cette situation. Et de faire en sorte de mettre en place des points de contrôle pour que cette situation ne se reproduise pas demain et qu'on s'améliore.
Très important.
Alors au-delà de ça, ça c'est du, on va dire, c'est du correctif. Le monde idéal, c'est que ça n'arrive jamais.
C'est mieux d'anticiper.
Voilà. Et pour anticiper, mais il faut avoir la mesure au quotidien.
On mesure comment? C'est-à-dire monter directement des collaborateurs? Vous avez des outils? Vous avez juste des projets?
Non, on n'a pas. Enfin, n'a pas d'outils de mesure au quotidien en permanence. Les outils dont, ici, les outils dont on dispose, on va avoir différentes palettes. On va avoir des outils de helpdesk qui vont nous faire du reporting, de la remontée sur l'état de tous nos tickets de demande de changement ou d'incident, savoir où on en est. On saura dire si le niveau de SLA est correct ou pas, si on est en dépassement ou pas. Donc effectivement, au quotidien, d'agir sur des opérations qui sont en train de dériver avant qu'on atteigne un point de non-retour. On l'a également sur les projets et on l'a également au niveau comptabilité. Donc on a une compta ici analytique à la semaine. C'est-à-dire qu'à la semaine, on sait où on en est sur toutes les affaires. Donc ça permet d'avoir de bons indicateurs. Mais on n'a pas aujourd'hui d'indicateurs outre la relation au quotidien entre les collaborateurs, entre les managers et les collaborateurs, mais on n'a pas d'indicateurs aujourd'hui qui nous donne le niveau de satisfaction de chaque collaborateur au quotidien, en permanence, son niveau d'adhésion par rapport à la stratégie de l'entreprise et comment il se sent dans l'entreprise.
Donc l'humain reste le plus important et cette relation humaine
reste le plus important. Alors on a parallèlement à nos outils, on a une culture de l'oral qui est assez développée dans l'entreprise. Parce que tout le monde se connaît, même à 60, tout le monde se connaît et se rencontre régulièrement. Mais moi, en tant que manager, j'ai une vision de qui est fortement impliqué dans l'entreprise, de qui il est moins, comme partout. Mais avoir extrêmement une vision extrêmement fine de quels sont les écarts ou sur quoi ou sur quel indicateurs une personne est moins impliquée, on ne l'a pas forcément. On va pouvoir échanger avec eux, tous les ans on va faire un entretien individuel, de là ça permettra d'avoir une mesure, mais c'est une photographie à la santé, c'est pas une photographie en permanence.
Ça t'est arrivé d'avoir une grosse surprise, quelqu'un, quoi que tu pensais très impliqué qu'il ne l'était pas, ou un entretien individuel, quelqu'un peut-être que vous pensiez sur le départ ou quasiment toxique et qui finalement avait juste un mal-être et ça s'est très bien passé après.
Alors oui, des mal-être, ça c'est arrivé d'en découvrir, hein. c'est arrivé. Souvent j'arrive à l'apprendre parce que souvent la personne à un moment donné vient communiquer et me le dit.
Vous arrivez à avoir ce relais-là.
On arrive à avoir ce relais. Donc ça veut dire qu'il y a une bonne communication et il n'y a pas une perception d'un management extrêmement pyramidal ou d'une fonction de management.
Fermé dans une tour d'ivoire à qui on ne peut pas venir parler.
Et qui n'est pas à l'écoute. Surtout pas. Il faut avoir un management participatif. Si le management n'est pas participatif, vous n'avez pas l'adhésion de vos collaborateurs. Et dans ce cas-là, il faut tout faire. Et c'est insupportable. C'est même ingérable. Et on n'a pas les idées de ses collaborateurs non plus. Ils sont pas apporteurs d'idées. Si on veut que tous, à un moment donné, apportent des idées dans l'entreprise, il faut être participatif. Il faut les faire adhérer à un moment donné aux décisions, même si vous êtes seul à un moment donné pour les prendre.
Ou en tout cas les expliquer au moins.
Mais les expliquer et les partager. Mais après avoir des collaborateurs, se rendre compte que certains n'adhèrent pas à certains sujets, oui, ça peut arriver. Ça peut arriver en discutant avec eux, de se rendre compte qu'il y a des choses qui ont été incomprises et qui pourtant ont été explicitées. Donc c'est qu'à un moment donné, ils n'ont pas été perçus de la bonne façon. Ça arrive.
Alors justement pour...
Et ça arrive bien souvent sur ceux dont on ne se doute pas.
Oui, on se méfie toujours plus de voilà. Ceux où il y a un souci.
Par essence même.
Alors justement pour... Pour soit communiquer avec ces gens-là, soit renforcer la vision ou leur appartenance à l'entreprise, est-ce que vous avez des choses que vous organisez, des repas, des journées, des...
Alors, oui, on fait. Alors, quand on était un peu moins nombreux, on faisait, à minima, on faisait une fois par an une sortie oxygène. Donc on sortait, on allait s'oxygéner, soit faire un peu de sport. On avait fait une année, on avait été sur Pont-d'Ouilly, on avait fait du kayak, on avait fait du VTT, on avait fait du tir à l'arc, de la rando sur une même journée. C'est arrivé qu'on fasse des sorties plus sport mécanique, faire du quad, du karting. Ça arrive des fois qu'on fasse une demi-journée karting, déjeuner, puis karting, ou karting et dîner. Maintenant qu'on est à 60, c'est compliqué de sortir tout le monde, et puis l'entreprise ne ferme pas à l'année. Il n'y a pas de période de fermeture, on est ouvert en permanence. Et il y a même d'astreinte, enfin il y a plusieurs lignes d'astreinte en 24-24-7-7. Donc il y a des gens qui sont toujours sur le pont. Donc c'est compliqué maintenant de réunir tout le monde. Et effectivement, on le fait. Alors, on le fait soit par des séminaires, où on va allier séances de travail avec du ludique, pour que les gens se retrouvent sur des séances de travail ensemble, mais à côté de ça, dans un environnement différent, en dehors de l'entreprise, plus sur des aspects ludiques, pour que la relation qui s'établisse soit différente. Et on le fait pour l'ensemble des collaborateurs. Alors, pas tous en même temps, on ne peut pas. Mais on tâche de mixer au fil du temps, pour que tous, à un moment donné, aient eu des périodes d'échange en commun.
Et est-ce que vous mixez aussi les équipes? Oui. Ou alors c'est... Oui, pour mélanger, ouais, peut-être.
Pour mélanger. Il faut absolument mélanger à un moment donné, que les gens se trouvent dans des environnements différents avec des personnes différentes. Qu'ils n'ont pas, avec lesquelles ils n'ont pas des relations extrêmement serrées au quotidien. Oui.
Oh, pas de souci.
Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que tu voulais, Bernard?
Oui,
madame.
Je
m'en occupe.
D'accord. Okay.
Et vous avez ramené le plan de prévention ou pas? Ça m'intéresserait de voir ce qu'ils ont mis dedans quand même. Ils vous ont pas laissé?
Non, ils n'ont rien laissé.
Oh ben normalement, ils peuvent vous en laisser
je
un exemplaire.
Bien, il y a pas les moyens de faire une photocopie. Alors, c'est un vrai bazar là-bas.
Ouais. Bon, ok. Bon, ben je m'occupe de ça.
Ils ont peut-être envoyé à Sonia par mail par contre, mais nous,
bon,
ils
ont rien laissé. Ça, ok, je demanderai à Sonia, je regarderai quand même ce qu'ils ont fait. Ça a été la semaine, ouais, vous avez réussi à faire ce que vous vouliez quand même?
Oui, voilà, ouais. On a réussi quand même à peu près ce qu'on voulait. Bon. Un peu plus compliqué.
Ouais, il y a eu la journée de mardi, quoi.
Voilà, on a
et il vous reste, vous estimez à combien de temps encore là-bas?
On y retourne la semaine prochaine.
Ouais.
À partir de mardi, parce que comme il n'y a pas trop d'avance, plutôt on va faire la semaine en 4 jours à partir de mardi.
Ouais.
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, plutôt que ouais. À partir de lundi. Comme ça leur fait une journée. On met l'autocom normalement en service mercredi.
Et pourquoi lundi vous y êtes pas? Il y a d'autres intervenants, non, qui doivent vous préparer des trucs?
Ouais. Ouais, d'accord. Les câbleurs
on pas fini,
sont pas en avance, il y a encore 2 baies à poser, plus la baie du deuxième bureau, donc ça c'est pas fait. Donc en décalant, on espère que pour vendredi, ils aient terminé, qu'on puisse terminer tout le câblage pour la fin de la semaine. Quoi.
Bon,
ça permet de leur laisser une journée de plus, voilà, pour travailler de leur côté. Quoi.
Ok, bon bah parfait. Merci Bernard.
Merci.
La vie d'un manager.
Ouais. Ah ben, la vie d'un manager, tu as une prévision de tâches que tu vas faire dans la journée. Tu arrives le matin et tu es sur le gris toute la journée. Ça rentre, ça sort. Il y a plein de gens qui viennent dire, tiens, ça, qu'est-ce qu'on fait? On en est où? Ça, on fait quoi? Et tu arrives en fin de journée, mais tu n'as rien fait de ce que tu avais prévu de faire.
Ah, justement, tu gères comment ça, toi, tes tâches et ton
en fait,
travail.
C'est la gestion du temps. En gros, il faut quand on planifie quelque chose, il ne faut jamais en mettre de trop dans la journée. Parce qu'il y a des impondérables qui vont arriver et il faut laisser du temps entre les deux pour gérer tous ces impondérables.
Tu gères un temps pour voir les gens?
Ouais. Je laisse dans la journée, si j'ai la moitié de la journée qui est prise sur un rendez-vous, c'est un maximum. Je ne peux pas mettre la journée complète. Ça veut dire que de toute façon, je ne serai pas sur l'entreprise. Donc dans ce cas-là, je le sais pertinemment avant. Mais la gestion du temps, en fait, moi je faisais un tableau à une petite matrice 2-2. Tu as ce qui est important, ce qui est non important, ce qui est urgent, ce qui est non urgent. Et puis ben, tout ce qui est non important, non urgent, de toute façon, c'est du chronophage. Donc tout ne supprime, il ne faut même pas le traiter. Après, il y a deux cases qui ont vraiment de l'intérêt, c'est ce qui est important, non urgent. Ben, ça, c'est à faire. Parce que sinon, ça va devenir urgent et important. Et là, ça veut dire qu'on a loupé une étape. On a loupé l'étape du non-urgent important. Et on ne l'a pas suffisamment traité en amont.
Oui, si on est arrivé à urgent important, c'est qu'on a loupé quelque chose.
C'est qu'on a loupé quelque chose.
Normalement, celle-là, elle doit jamais être.
Normalement, elle ne doit jamais arriver. Alors, il y en a qui vont arriver, il ne faut pas se leurrer. Hein, mais faut en avoir le minimum.
Et ça peut être aussi un indicateur qu'on n'a peut-être pas su déléguer dans certains cas.
Dans certains cas, certaines tâches, certains dossiers. Et finalement, ça a traîné. Et on se trouve à la bourre. Et on s'est soi-même mis à la bourre.
Et tu utilises aujourd'hui des tableaux de bord ou des choses pour que tes relais et ton groupe fermé, pas fermé d'ailleurs, mais ton groupe de confiance te remonte les informations. Est-ce que d'ailleurs ont pris facilement la mesure de ce rôle-là pour certains qui n'étaient peut-être pas manager? Parce que là, il a fallu que toi, qui es devenu manager, tu accompagnes des gens à devenir manager.
Ouais. Oui. Et c'est pas simple. Alors, souvent, quand je réexplique ça, prends un exemple également du garagiste. C'est marrant, j'aime bien les garagistes.
Un bon exemple, voilà, très concret. Bon
exemple. En gros, c'est y a un mécano, c'est un garagiste, il est super bon. Et il est tellement bon qu'on le promue chef d'atelier. Et puis, donc il est promu chef d'atelier, tout va bien. Et puis, quelques mois après, enfin peut-être même un peu plus rapidement, le patron du garage se rend compte que c'est un bon et son nom, les clients râlent tous. Et puis, il descend dans l'atelier pour voir ce qui se passe, quoi, et voir son responsable d'atelier. Et quand il arrive dans l'atelier, il voit des clients qui attendent au comptoir, et puis il voit son responsable d'atelier qui est en train de réparer une voiture, et tous les mécanos qui sont autour en train de regarder.
Le micromanagement.
Voilà. Et là, il voit pourquoi ça ne fonctionne pas. Et donc, effectivement, ce qui est compliqué à un moment donné, pour quelqu'un qui passe d'un poste où il est soit ingénieur, soit technicien, et il réalise des prestations, c'est de passer sur un rôle où il va être plus dans une gestion de compétences, une gestion du pipe des projets qui arrivent, de dispatching des dossiers, vérification que ça se passe bien, de l'accompagnement quand il y a besoin de temps en temps, mais surtout d'avoir un pilotage et donc des informations remontantes, un tableau de bord qui lui donne des indicateurs sur l'état d'avancement des différents projets, la charge d'activité sur les différentes personnes. Donc ça, effectivement, on a un ensemble de tableaux de bord, on a du reporting à la fois sur les aspects finances, sur les aspects projets, où ils en sont, combien il y en a en parallèle, sur les aspects planning, sur les aspects charge d'activité, sur la mesure d'inactivité, par exemple, certaines personnes. Donc là-dessus, on n'est pas trop mal loti. Ça va. Et également sur les aspects business, mais plus business en prospection. On a des ensemble de reporting par rapport à ça qui nous donne de bons indicateurs. On sait, allez, on va dire au quotidien où on en est.
Et tu penses, pour revenir justement alors sur la métaphore du garagiste, est-ce que tu penses que tout le monde peut devenir un manager? Est-ce que c'est fait pour tout le monde ou est-ce qu'il faut le sentir? Est-ce que par exemple un expert peut devenir un bon manager?
Je n'ai pas d'avis sur la question. Franchement, je n'ai pas d'avis sur la question. C'est une question d'envie, hein, c'est comme tout, hein. Soit on en a envie, et puis... alors oui, il y a des gens qui vont être plus naturellement des managers. Hein. Il y a des grands, il y a des petits, il y en a qui ont les yeux bleus, les yeux marrons. Il y a des gens qui sont doués en sport, d'autres qui ne le sont pas. Il y a des gens qui sont plus ou moins facilement doués en management que d'autres. Mais ça s'apprend, si. C'est comme tout. C'est une question de volonté et de motivation.
C'est avant tout une envie et que ce ne soit pas imposé. Ouais,
faut que ce soit... Je pense que... Oui. De toute façon... rien, enfin, c'est compliqué d'imposer. On va demander à quelqu'un, ou on va être un peu plus incisif, je veux que tu fasses ça. Mais si ça reste de l'imposition permanente, ça ne fonctionne pas. Il faut l'adhésion.
On en revient à l'explication.
On en revient à l'explication.
De comprendre ce qu'on fait.
Et si on n'a pas l'adhésion, ça ne marchera pas. Donc on en revient à du participatif. Si on ne fait pas de participatif, ça ne marche pas. On n'obtient pas le meilleur de chacun. Et il faut positionner naturellement les gens là où ils sont bons. Donc là où ils sont bons, c'est là où ils ont envie de le faire. Et si on a besoin d'élargir plus loin, il faut les motiver pour pouvoir élargir plus loin, élargir sur d'autres champs d'action.
Et tu as quelquefois des gens qui, dans les équipes, dont tu te rends compte que facilement, ils encadrent les autres, facilement...
Oui, ça se voit, ça.
Et que ça remonte.
Oui.
Et c'est plutôt sur ces profils-là que vous allez miser.
Oui, c'est plutôt sur ces profils-là qu'on va miser. Parce que quelque part, on voit qu'ils en ont envie. Donc, ils ont une longueur d'avance sur les autres. Donc, c'est plus eux qu'on va mettre en avant sur les postes de management. C'est clair et net.
Là, aujourd'hui, justement, quand on devient manager, on a quand même tendance à oublier son ancien métier, à plus être en prise directe. Tu es encore en prise directe avec certains clients, ça t'arrive?
Ah oui, ça m'arrive. Ça m'arrive de prendre le relais quelquefois de responsable d'affaires quand ils sont en congé.
C'est quelque chose d'important pour toi,
ça peut m'arriver, mais ça va m'arriver également sur des projets de faire des devis et puis d'aller jusqu'à la conclusion d'une affaire.
D'avoir toujours un contact avec le terrain
et
peut-être mieux comprendre du coup le travail.
Il ne faut surtout pas lâcher le contact avec le terrain. C'est le meilleur moyen d'être proche de la réalité et de s'adapter au plus vite et de se rendre compte des changements qu'il y a à faire. Bon. Mais aussi d'avoir une crédibilité vis-à-vis de ses équipes.
Hein. Oui. De montrer qu'on a connu le métier ou qu'on est capable de le comprendre.
C'est pas vouloir le montrer, mais c'est que finalement, intrinsèquement, on connaît leur métier et qu'on sait ce qu'ils ont à faire. Donc on a une mesure plus fine.
Et on peut mieux les comprendre.
Et on peut mieux les comprendre.
Du coup,
et mieux adapter également, et mieux transformer, et mieux les accompagner sur le changement.
Du coup, ça marche dans les deux sens. Ouais. On doit leur faire comprendre leur rôle et quelle est la stratégie et l'envie de la direction, mais à l'inverse aussi, comprendre quelles sont leurs problématiques, quels sont leurs métiers et autres. Donc c'est encore une grosse question de compréhension et d'humain.
Ouais, ouais.
Bon. Merci beaucoup Serge. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ?
Plein de belles affaires pour les années à venir.
Bon, ce sera déjà pas mal.
Ce sera déjà pas mal.
Merci beaucoup Serge.
Après, c'est que de l'organisation, que du management, c'est que du bonheur. Après.
Bon, c'est de l'humain, ça, ça se fera.
Ouais. Mais ce qui est intéressant dans l'humain, par rapport à la technique, c'est que l'humain, il répond. Et l'humain, il n'est pas toujours logique. Parce qu'il y a d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte.
Et met en cause tes certitudes.
Voilà. Alors que la technique, elle ne répond pas. Des fois, ça marche pas, mais si ça marche pas, on analyse, on trouve pourquoi, et ça se corrige. L'humain, c'est plus compliqué.
Bon.
Ça se travaille plus délicatement.
Alors, c'est sur ces mots de délicatesse qu'on va se quitter. Merci, Serge.
Merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si vous avez apprécié, laissez-nous un avis sur iTunes ou votre fournisseur de podcast. C'est ce qui nous aide le plus et nous encourage à continuer. N'hésitez pas non plus à nous faire vos remarques en commentaire ou nous proposer le nom de nouvelles personnes à inviter. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt pour un nouvel entretien individuel.